session de théologie, la création, le péché, par le père Philippe à Rimont, le 22 février 1993, premier cours.
Je vous ai dit, ne pas hésiter s'il y a des questions, de les écrire. Puis dans la mesure du possible, j'y répondrai. Parce que c'est jamais bien de rester avec une interrogation. Alors, on va trouver en sortant d'ici tel ou tel prêtre, tel ou tel théologien qu'on dit, on a dit ça à Rimont, qu'est-ce que vous en dites? Puis alors ça fait des bavardages. Il faut couper ça tout de suite. La tentation de s'identifier au démon est-elle plus grave que la tentation de s'identifier à Dieu? Hein? S'identifier au démon, c'est une drôle de tentation. J'ai jamais été séduit de m'identifier au démon. J'ai plutôt l'intention de le dépasser. Dans l'orgueil qu'on peut avoir, bon, il s'est fourré dans le fossé, le démon. J'ai pas envie de me fourrer dans le fossé. Alors, je vois très bien, c'est la tentation de faire comme le démon. C'est-à-dire, au fond, de considérer que l'obéissance à Dieu, au représentant de Dieu, c'est pas commode du tout. Comme voie d'accès à Dieu. Si vous observez mes commandements, vous m'aimez. Si vous m'aimez, vous observez mes commandements. Venez, c'est pas commode comme voie d'accès, mais c'est la voie d'accès de la nouvelle alliance. Alors, c'est la tentation porte là-dessus. Elle porte toujours sur le moyen. Alors, je comprends la tentation de s'identifier au démon. Est-elle plus grave que la tentation de s'identifier à Dieu? S'identifier à Dieu, et les deux, au fond, se rejoignent. Le démon veut prendre la place de Dieu. Au fond, la tentation est du côté du gouvernement de Dieu. Pas prendre la place de Dieu, ontologiquement parlant, on sait que c'est impossible. Mais au point de vue du gouvernement divin, ah, c'est différent. On a quelquefois envie de prendre la place de ses supérieurs. Et je leur laisse très largement qu'ils prennent ma place, je ne demande pas mieux. C'est ce que dira tout supérieur, même le pape. Parce que c'est jamais drôle d'exercer l'autorité aujourd'hui. On le fait parce qu'on doit le faire. C'est dans ce sens-là qu'il faut prier beaucoup pour le Saint-Père et pour tous ceux qui exercent l'autorité. Même quand l'autorité n'est pas énorme, c'est quand même l'autorité. Et l'autorité nous lie toujours à l'autorité de Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Et l'autorité est un service, en définitive. La tentation, donc, où cela revient-il au même, voilà. Orgueil, orgueil et toujours orgueil. Orgueil, orgueil, toujours. Le péché se ramène à l'orgueil. C'est ça qu'on verra au terme. Ce qui n'empêche pas qu'il y a d'autres péchés. Attention. Mais pratiquement, la faute de Lucifer, c'est une faute d'orgueil. Et c'est le premier péché. Et c'est un orgueil satanique. C'est-à-dire angélique. Un orgueil qui va très loin. Puisque de fait, le démon n'accepte pas le gouvernement de Dieu comme père. Il y a un refus de paternité. Je crois qu'au fond, l'orgueil est toujours un refus de paternité. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est très net. Freud a voulu tuer le père. melon, viens. Donc, vous voyez, le père, c'est celui qui brise l'unité de l'enfant et de la mère. Et le disciple de Freud, qui était en Suisse, tout près de Neuchâtel, voulait supprimer la mère. Il l'a dit lui-même dans un article que j'ai lu. Je veux être plus freudien que Freud. Comme on est plus royaliste que le roi. Je veux être plus freudien que Freud. Et pour être plus freudien que Freud, je vais supprimer le lien d'enfant avec la mère. Parce que ce lien d'enfant avec la mère est encore plus terrible que le lien d'enfant avec le père. Il a même donné tout son argent pour fonder un institut à Genève dans sa perspective. Je suppose que c'est devenu ça. Parce que depuis que j'ai quitté la Suisse, je ne suis plus les événements. Mais c'était assez terrible. Il avait lu 10 000 lettres, disait-il, de jeunes fiancés ou mariés. Il avait déclaré, dans aucune de ces lettres, je ne trouve l'amour. Donc l'amour n'existe pas. Alors, il avait oublié que ceux qui aimaient vraiment ne lui écrivaient pas. Parce que c'est un fait, voulez-vous. C'est ceux qui avaient des difficultés qui lui écrivaient. Et donc, peut-être, n'aimaient pas très. Tandis que ceux qui aimaient vraiment ne vont pas aller s'ouvrir à quelqu'un qui veut tuer la mère. Vous comprenez, c'est un peu... Mais c'est là où on voit très bien que l'orgueil rend aveugle. Et c'est le serpent qui mord sa queue. L'orgueilleux est bête. Le démon est très bête. Tout en étant très intelligent. Il est très bête dans sa tactique. Parce qu'il répète. J'ai toujours rêvé de faire un disque des tentations du démon. Vous voyez ça? On aurait le disque des tentations du démon. Et on verrait qu'il se répète tout le temps. Parce qu'il me semble qu'il y a une théologie qu'on n'a pas encore faite. C'est la théologie des tentations. Je ne crois pas qu'il y ait une théologie des tentations. Ce qui serait très intéressante. Parce que le démon étant très malin, il est malin et bête. C'est, et ça peut aller en même temps. C'est pas contradictoire. Parce qu'il est très malin au point de vue comme un chien de chasse. Il voit tout de suite la fragilité de chacun d'entre nous. Parce qu'il a une connaissance angélique de notre, de notre psychisme. Et alors, ce qui est intéressant dans la théologie des tentations, je l'ai faite pendant une année ici, mais j'aurais voulu pousser, mais on n'a pas beaucoup de temps. Mais ce serait très intéressant de lire toute la Bible en relevant toutes les tentations. Et vers la tentation vers la théologie des tentations. C'est-à-dire voir par les tentations toutes les vulnérabilités de l'homme et de la femme. Le démon ne tente pas de la même façon l'homme et la femme. Différemment. Et pour comprendre la psychologie chrétienne, elle doit être dans la lumière des tentations. Et je crois qu'il y a là quelque chose d'extrêmement intéressant à faire. Parce que ça éclairerait énormément. Vous voyez, hier nous avons vu cette tentation première par rapport à l'homme. Le démon regarde tout de suite la vulnérabilité. Intéressant à voir. Quelle est la vulnérabilité d'Ève? C'est que Ève a besoin de s'affirmer. Ça arrive de temps en temps pour la femme. Ce que je disais hier en riant, je ne crois pas qu'Adam a beaucoup interrogé Ève. Il lui a dit, dans un très grand amour, nous devons faire ça. Entre l'homme et la femme, c'est avant tout, surtout entre l'époux et l'épouse. Adam est un très merveilleux époux, ça j'en suis sûr. On verra ça au ciel. Et Ève aussi, une merveilleuse épouse. Je suis persuadé que ça se passait très bien. Ils s'aimaient et ils adoraient Dieu et ils contemplaient. Ils étaient des familiers de Dieu par leur grâce de justice originelle. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, ça ne nous est pas dit. Mais le serpent veillait. Il attendait qu'il y ait un moment de fragilité. Et ce moment de fragilité, c'est peut-être l'ennui. Quelquefois, on s'aime, mais on ne s'aime pas avec assez d'intelligence de l'un et de l'autre. Alors, à ce moment-là, il y a une usure. Ça existe, l'usure, dans l'amour d'amitié. Mais c'est les pneus qui s'usent et qui dérapent facilement. Alors à ce moment-là, on part facilement dans le fossé. Il suffit d'un rien. Elle est partie dans le fossé. C'est un déraillement complet. Et le démon a saisi ça. Il l'a interrogé. Et quand on s'ennuie, si quelqu'un nous interroge, voilà quelqu'un d'intelligent. Vous voyez la petite flatterie. Et la flatterie conduit à l'orgueil. Elle avait été interrogée. Alors que je crois qu'Adam l'interrogeait pas. Et là, je ne dis pas qu'Adam a manqué de psychologie. Parce que c'est pas ça. Je ne dis pas ça. Je dis qu'Adam a peut-être manqué d'attention. Vous êtes très attentif dans l'amour. Attentif à l'autre. Pour saisir ses vulnérabilités. La créature, comme créature, est vulnérable. Donc, elle peut manquer d'amour. Et c'est ce manque d'amour que, tout de suite, quand on aime en acte, le démon ne peut rien sur nous. Ça, c'est sûr. Mais dès qu'il y a un tout petit peu d'ennui, quand on aime en acte, il n'y a pas d'ennui. Mais dès qu'il y a petit peu d'ennui, immédiatement, le démon interroge. Donc, il oriente vers une possibilité d'éclairer quelqu'un. Le premier enseignement, c'est la femme qui enseigne le serpent. Pas seulement le dialogue, mais c'est un enseignement. Et elle a été prise au jeu. Elle cherche la vérité, j'en suis persuadé. Et le démon cherche à la dévoyer, à la mettre dans une perspective qui n'est plus de Dieu. Et il l'a prise au piège. Tu vas me renseigner. Et le démon interroge avec sans doute. Vous voyez, ce qui est terrible dans l'écriture, hein, c'est qu'on n'a pas dans les dialogues les intonations. L'Esprit Saint ne nous donne pas les intonations. Et les exégètes ne font pas attention aux intonations. Alors que dans un dialogue, l'intonation, c'est 90%. Comment le démon a-t-il dit ça, hein? L'intonation du démon. Alors, Dieu a dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. Un petit peu d'ironie. Mordante d'un grand intellectuel vis-à-vis de cette brave petite Ève, innocente, sûrement une ironie terrible. Le démon plaide, je vous disais hier, il plaide le primat d'intelligence, tout le temps, tout le temps, tout le temps. et rester intact. Donc il est très intelligent, mais son intelligence n'a plus sa finalité. Il ne recherche plus la vérité. Il cherche à se mettre en valeur. Il cherche à agir. Il n'aime pas d'être coincé. Alors, il y a une ironie mordante. Vous savez, comme dans la fable de La Fontaine, le loup et le chien. Quand le loup dit au chien, « Hé, qu'est-ce que tu as là ?»« Tu as une trace d'un collier. » La trace du collier. Dieu a dit, « Vous ne mangerez pas d'aucun arbre. Vous ne mangerez d'aucun arbre de jardin. » Voilà le collier. Précepte négatif. Dieu vous a donné quelque chose de merveilleux, un petit jardin étonnant, l'Éden, c'est extraordinaire. Il y a des petits poissons rouges pour s'intéresser, tout, tout merveilleux, des arbres de toute espèce, étonnant. Ah, il y a quelque chose. Vous avez un collier. Au fond, vous êtes des esclaves de Dieu. Vous êtes des esclaves de Dieu. Il y a le petit collier. Et vous ne pouvez pas, et ça se traduit de cette manière-là. Alors immédiatement la femme se redresse. Et elle a raison. C'est la fierté de la femme, là. Elle a sa noblesse de personne, de créature de Dieu. Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Nous avons cette liberté-là. Elle rappelle sa liberté. Mais de l'arbre, du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, tu as dit, vous n'en mangerez pas. Elle est vraie, mais elle aurait dû se taire. Elle livre le secret. Et dès qu'on livre un secret, je vous ai dit hier, on perd sa force. Dans le monde d'aujourd'hui, les journalistes cherche à prendre des secrets. Tout le temps. Les psychanalystes cherchent à prendre des secrets. Et dans le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce qui sait encore garder des secrets? Les médecins, qui avant avaient un sens très aigu du secret, aujourd'hui, puisque les médecins se réunissent auprès d'un malade avec un psychanalyste pour savoir exactement ce qu'il en est. On dit, devant plusieurs, voilà ce qu'il en est. Alors oui, le secret se communique. Et dès qu'il s'est communiqué devant, les autres ne comprennent pas du tout. Et n'hésitent pas de le dire. Et de raconter tel cas. Alors, quand on est le patient et qu'on entend l'autre raconter ça, c'est pas très drôle. Hein. Ou quand on est l'ami du patient. C'est très curieux de voir que dans notre monde d'aujourd'hui, on a une peine énorme de garder un secret. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus assez d'amour personnel. C'est des psychanalystes. Un psychanalyste freudien converti qui m'a raconté cette histoire. Pendant 3 ans, pendant 1 an, il avait été appelé à Londres. Il était canadien, canadien de langue anglaise. Il avait connu Freud. Il avait été appelé à Londres, dans un hôpital, pour comprendre le pourquoi des enfants qui sont meurtriers. Pourquoi un enfant tue? Pourquoi un enfant blesse? Il avait vu, durant son année, 400 cas. Je l'ai vu le soir quand il est rentré de Londres. Il m'en a raconté. Ils étaient plusieurs médecins. Chercher. Et puis des médecins étrangers étaient venus, il y avait même des médecins de Moscou. il s'intéressait à ça. Et il m'a dit, on avait eu grande envie de demander à ces médecins de Moscou, est-ce qu'il se passe le même phénomène chez vous? On n'a pas osé. On n'a pas osé poser la question. On aurait eu envie de poser la question. Comment ça se fait que des enfants de... Je crois que c'était entre 7 ans et 13 ans, 7 ans et 14 ans. 400 cas. Oui, chaque semaine, ils se retrouvaient. Pourquoi ces enfants tuent? Alors ils sont arrivés à cette conclusion. Ils n'auraient pas le dire tout de suite. Ces enfants ont manqué d'amour. Vous voyez, comme l'amour maternel empêche le crime. Ces enfants ont manqué d'amour. Ils auraient pu dire ça tout de suite. Et alors, ils ont ajouté, il manque d'amour dans le monde d'aujourd'hui. Il y a une famine plus terrible que celle de la nourriture. Il y a une famine spirituelle. Et la famille spirituelle, il manque d'amour dans le monde aujourd'hui. Et ça, je crois que c'est juste. Alors quand on entend la parole du Christ, je suis venu apporter le feu sur la terre, et je désire que ce feu brûle tout, et qu'on entend 2000 ans après des psychanalystes auprès des enfants, parce que les enfants sont toujours révélateurs de la civilisation qui monte. Quand on a 23 ans, 25 ans, on n'est plus révélateur de la civilisation qui monte. On est révélateur de la civilisation actuelle. Tandis qu'un enfant, c'est ça qui est très curieux chez l'enfant, il vit demain. Et donc, il révèle quelque chose qui arrivera demain. Ils sont des petits prophètes de demain. C'est très très curieux et c'est très mystérieux ça. Et ça fait partie de la qualité de l'enfance. Ils posent des questions, ils sont avides de connaître, et avides de connaître ce qui se passera demain. Et je crois que là, ces enfants meurtriers sont des témoins d'une civilisation qui n'est plus une civilisation de l'amour, mais de l'efficacité. Et une civilisation de l'efficacité pure, mais l'amour en second lieu. Et quand l'amour est en second lieu, l'amour disparaît. L'amour ne peut exister qu'en premier lieu, dans le cœur de l'homme et dans le cœur de la femme. Vous voyez, c'est ça qui est important à saisir dans les tentations, au point de vue théologique. Les tentations nous révèlent l'intelligence du malin à l'égard de la psychologie de l'homme et de la femme. Et on voit dans cette tentation comment le serpent attire l'attention de la femme par l'interrogation. Comment il plaide le faux pour savoir le vrai. Ça, c'est la tactique du démon. Il est le prince du mensonge. Il plaide le faux. Parce qu'il sait bien, il sait très bien que Adam et Ève peuvent manger d'arbre. Ils l'ont vu, il l'a vu. Il plaide le faux. Mais le collier, c'est pas grand-chose le collier. Ça devient énorme. Elle est toujours comme ça. Et toutes les propagandes démoniaques sont comme ça. D'un fait, on universalise, on plaide le faux. Et alors, à ce moment-là, avec une bonne intention, on veut plaider le vrai. Et on livre le secret. Et dès qu'on livre le secret, on n'a plus aucune force. C'est extraordinaire de voir que Ève, livrant le secret, elle donne la main au serpent. Et donc, il la pique. Tout de suite. Et elle est livrée. Par l'orgueil C'est assez extraordinaire de voir ça. La première tentation. Alors, je continue cette petite lecture parce qu'elle est quand même très importante. Après, on verra les conséquences. Ils s'entendirent du bruit. Le bruit des pas d'Yahvé qui se promenaient dans le jardin. Vous voyez, langage très, très symbolique. Entente comme si Dieu se promenait le soir. J'avais besoin de sa petite promenade du soir. Alors, il se promenait dans l'Éden. Et c'est très, très joli. C'est tout à fait ça. Dans les annales des frères dominicains du début. On dit que Marie, le soir, se promenait, malgré la clôture, se promenait dans le dormitorium. Dormitorium, c'est le lieu où les frères dormaient, pour voir si tous les frères étaient bien couverts. C'est dit dans les fiorettes, soir du début. Alors je lui demande de temps en temps de se promener ici, pour éviter les... Ils entendirent le bruit des pas d'Yahvé, Dieu, qui se promenait dans le jardin, à la brise du jour. Ils se cachèrent. Première conséquence du péché, on a peur du regard de Dieu. C'est une conséquence immédiate. L'orgueilleux ne peut plus regarder Dieu face à face. Il en a peur. Ils se cachèrent, l'homme et sa femme, de devant Yahvé Dieu, parmi les arbres du jardin. On les voit très bien. On entend le bruit des pas de Dieu. On se cache derrière. C'est très enfantin. C'est merveilleux comme récit. Parce que c'est très symbolique, mais ça dit quelque chose de très fondamental. La crainte chaste de Dieu qu'on a quand on aime Dieu se transforme en la crainte du gendarme. Dieu devient gendarme. Dieu devient celui qui punit. Celui qui va mettre une amende. Alors on a peur, on se cache. Alors que avant la faute, on a une révérence d'amour vis-à-vis de Dieu, une crainte, ce qu'on appelle la crainte chaste, la crainte aimante. Yahvé Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il dit, « J'ai entendu le bruit de tes pas dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Voyez bien que la nudité montre bien le retour de la conscience sur la coupure, la brisure à l'égard de Dieu. Alors on est nu, comme une pauvre petite créature qui n'a plus de lien avec Dieu. C'est la fragilité. Celui qui est nu est sans défense. Il est totalement vulnérable devant l'ennemi qui l'attaque. Tandis que le vêtement est encore une petite cuirasse. Ça, c'est évident. C'est quelque chose qui empêche d'attaquer. Et c'est vu dans cette perspective-là. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Il dit, qui t'a appris que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger ? C'est la désobéissance qui coupe le cordon qui nous lie à Dieu dans l'adoration. Et qui nous replie sur nous. La terrible conséquence de la désobéissance, c'est qu'on est coupé de l'autorité. Et on se replie sur soi. Et comme tu insistes, qui t'a appris que tu étais nu ? nudité intérieure, la nudité spirituelle. L'homme dit, c'est la femme que tu as placée près de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Seconde conséquence de l'orgueil, de la désobéissance, parce que l'orgueil et la désobéissance, c'est de perdre la responsabilité de ses actes. Et donc, de ne plus avoir de charité fraternelle. Le premier acte contraire à la charité fraternelle, Adam le commet ici en face de Dieu. Il voudrait mettre sa femme entre lui et Dieu. Donc il se sert de sa femme pour être son vêtement. Hein? Voilà. Parce que sa nudité le rend tellement vulnérable en face de Dieu. Mais c'est elle. Donc il n'a plus la fierté de celui qui prend la responsabilité de ses actes. La dignité. Il avait dit donc à la femme, qu'as-tu fait là? La femme dit, c'est le serpent qui m'a dupé et j'ai mangé. Vous voyez, la femme aussi a perdu la responsabilité de ses actes. Alors c'est le serpent. Et le serpent, il porte la responsabilité de ses actes. Et il en est fier. La première tentation que le démon a fait, hein, si je lis l'écriture sérieusement, c'est à l'égard d'Ève. Parce qu'à l'égard des autres démons, il n'y a pas besoin d'être tenté, ils ont été tentés eux-mêmes directement. Le démon n'a pas tenté les autres anges. Les autres anges ont été tentés directement par eux-mêmes. Le démon est tentateur de l'homme. Et de la femme. Alors nous allons voir ici le jugement de Dieu. Il avait dit au serpent, parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes des champs. Sur ton ventre tu marcheras et poussière tu mangeras. Tous les jours de ta vie. Vous allez dire, mais il s'est dit comme ça le serpent. Oui, oui, c'est extrêmement curieux. C'est très. Quand il y a un symbolisme divin, c'est toujours très intelligent. Quelle est la punition que Lucifer reçoit d'avoir tenté la femme? Dieu n'est pas content du tout. Hein. Dieu est furieux parce que la femme, c'est son trésor. Et voilà que son trésor lui échappe. Par l'orgueil. Et Jésus, Dieu, Yahvé, montre la bêtise du serpent. Parce que c'est vrai, l'orgueil n'est plus une intelligence contemplative, c'est une intelligence qui se replie sur elle-même. C'est pour ça que c'est une intelligence qui se dégrade. L'orgueil dégrade l'intelligence. Et quand on vit dans un monde qui est collectivement orgueilleux, l'intelligence des hommes s'éteint. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Quelle est l'intelligence aujourd'hui des hommes politiques? Posez-vous la question, il faut se la poser en face des élections, sans faire de politique. Mais je pose la question. Il faut se poser la question. On a le devoir, parce qu'on est tous liés les uns aux autres. L'orgueil collectif abétit l'homme. Et c'est ça que Yahvé veut montrer. Toi, si intelligent, voilà ce que tu as fait, eh bien, tu vas voir la conséquence de la tentation que tu as faite librement. Eh bien, tu vas être maudit. Son intelligence spirituelle va être liée au monde physique. La conséquence du péché chez Lucifer, c'est que cet être, séparé de la matière, à cause du péché, est lié au monde physique. C'est pour ça que les démons désiraient dans les petits ports. On n'a jamais étudié beaucoup les conséquences de la chute de Lucifer par rapport à l'intelligence. Et ce serait pourtant bien intéressant, parce que c'est symbolique ici, mais c'est quand même très fort. C'est Dieu qui dit au serpent, et à travers le serpent, puisque c'est le symbolisme de Lucifer, au démon, tu vas ramper. Toi qui avais une intelligence contemplative et angélique, tu vas ramper et tu vas être l'animal qui sera le plus bas. Vous voyez, l'ange n'a rien à voir avec l'animal, mais par l'orgueil, il est complice de l'animal. Et l'animal, c'est l'intelligence sensible. C'est plus du tout une intelligence, mais c'est la sensibilité, c'est l'imagination. Et la conséquence du péché chez Lucifer, c'est que son intelligence, qui était libre et qui était contemplative, va devenir une intelligence liée au sensible et à l'imagination. Seconde conséquence, je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te visera à la tête et toi tu la viseras au talon. Dieu proclame qu'il y aura une lutte implacable entre le démon et la femme. Le démon est jaloux de la femme. Quand on vit de la contemplation, on vit un niveau de sagesse. Le démon est dégringolé de sa sagesse. Il a une intelligence qui est liée au sensible. Il va devenir jaloux de la femme. D'une jalousie farouche. Une opposition farouche, une inimitié, une opposition farouche. Et il la précise, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci te visera à la tête. Et Dieu demande à la femme d'exécuter son jugement. Introduit la lutte, conséquence de l'orgueil. Il n'y a plus de paix sur le monde, de paix le péché.
Session de théologie, la création, le péché, par le père Philippe Arimon, le 22 février 1993, deuxième cours.
Avant la chute, n'est-ce pas le signe que le manque d'attention de la part d'Adam était une faute ? Pas nécessairement. Ça pouvait être tout simplement, je dirais oui, c'est, vous savez. Il y a un abîme de soif chez la femme par rapport à l'amour de son mari. Et quelquefois, il ne mesure pas assez. C'est sûr, si Adam avait été parfait, mais là, avant, Adam pouvait croître dans l'amour. Et la femme a toujours, dans l'ordre de l'amour, une hâte que l'homme n'a pas toujours. C'est de l'ordre de l'harmonie des deux, vous voyez. Alors, il y a eu sûrement quelque chose, vous voyez. Le démon vise sur la vulnérabilité. Alors, en y réfléchissant, je me suis dit, quand même, il interroge. Donc ça prouve qu'elle est ennuyée. Et quand vous vous ennuyez un tout petit peu, quand vous manquez d'amour, qu'il n'y a pas de ferveur, un petit oiseau qui chante. Ah tiens, mais le gosse, il est comme ça. Parce que le gosse n'a pas l'attention. Quand on parle à des enfants et qu'on est dans une forêt, qu'il y a des oiseaux qui chantent, mais tout de suite, il regarde ça. Et quand on est très pris, on doit préparer un examen, les oiseaux chantent et puis on n'entend rien. Comment l'intelligence du démon, être purement spirituelle, peut-elle être liée au monde physique ? Ah oui. Comme punition. C'est pas normal. Mais le démon n'est pas un être normal. Il est dans un état de celui qui est orgueilleux. Et il est puni par Dieu. Parce qu'il s'est occupé de la femme. Il a louché sur la femme. Et il s'est fait serpent. Je veux dire, il a pris la psychologie d'un être flatteur, rampant, pour tirer la vérité du cœur de la femme. C'est pas bien ce qu'il a fait. C'est évident que c'est pas bien. Alors, la punition, la conséquence, c'est ça. Et je crois vraiment cela. Le démon veut régner sur le monde. La tactique du démon, hein, c'est quand même... Et ça, j'ai pas été jusqu'au bout de cette théologie de l'interrogation. Mais je voudrais, si j'avais un peu de temps, je la ferais. Parce que ça m'intéresserait beaucoup. Et ça nous permettrait de comprendre la stratégie démoniaque qu'on voit expliquée dans l'Apocalypse. Expliquer dans l'Apocalypse, parce qu'on voit comment le dragon, puisque l'Apocalypse c'est le dragon, et c'est l'antique serpent. Alors vous voyez, le démon joue toujours entre les deux. Une dialectique de la ruse et de la puissance. Procédé d'intimidation, le dragon. Procédé d'attirer l'attention, la ruse. Il cherche plus la vérité. Le démon veut prouver à Dieu que Dieu a eu tort de créer l'homme et la femme comme son chef-d'œuvre. Oui, il est anti-homme, anti-femme. prodigieuse, d'une façon très astucieuse et d'une façon orgueilleuse avec sa puissance. Il intimide la femme, il fait peur à la femme. Et il essaie par tous les moyens de la détourner. Il fallait voir Marthe Robin et le démon. Un petit dialogue qui était pas piqué des vers. Hein. Le démon qui l'a vu, elle était complètement immobilisée. Et le démon l'a flanqué sur le mur alors qu'elle avait la couronne d'épines et qu'elle souffrait terriblement. Et j'ai entendu ça, le bruit qui se passait quand on allait voir Marthe, surtout pendant la passion. On entendait des coups comme ça. C'était le démon. Quand on était là, le démon ne faisait plus rien. D'où ça venait, ça? Le démon fait du bruit. Il essaie de manifester sa puissance. Alors le démon voudrait montrer ça. Et la tactique du démon, vous voyez, la bête de la mer, c'est la perversion de l'intelligence. Le démon n'a qu'un seul désir, c'est de pervertir l'intelligence de l'homme et de faire que l'homme proclame que Dieu n'existe pas. Ça, c'est la grande victoire du démon, l'athéisme. Parce que par là, il montre, tu vois, ces petits derniers, voilà ce qu'ils font, voilà leur reconnaissance. Le démon ne peut pas proclamer que Dieu n'existe pas. Il est trop intelligent pour ça. Alors il se sert de pauvres êtres humains. Et petit à petit, il les conduit à l'athéisme. Quand on regarde l'histoire de la philosophie en Europe, on voit comment, dès le XIVe siècle, le démon prépare l'athéisme moderne. On n'a pas proclamé tout de suite les idéologies athées. Les idéologies athées sont le fruit du démon. On ne le dit pas sans Sorbonne. Mais si vous n'y comprenez rien aux idéologies athées, si vous ne voyez pas ça, et les sept formes d'idéologie athée du siècle précédent et de notre siècle. C'est un phénomène tout à fait nouveau dans l'histoire de la pensée. Mondial. Ça n'existe pas dans l'Inde. Parce que ça ne peut exister que comme anti-chrétien. Donc c'est l'œuvre du démon. Anti. Et les sept formes d'idéologie athée sont des oppositions violentes aux sept béatitudes évangéliques. Et la conséquence de ces idéologies athées, c'est la laïcité de notre monde d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que le pape a déclaré, cette chose que je répète souvent parce que personne ne le dit, et donc il faut au moins que ce soit proclamé, quand le pape est venu pour la première fois en France, à Paris, et pour lui c'était très important, parce qu'il aime la France, comme beaucoup de Polonais. Les Polonais catholiques aiment la France, ils se sentent liés à la France. Ils se sentent liés à l'ordre de Saint-Dominique, Saint-Hyacinthe. Il faut voir chez les Dominicains, Saint-Hyacinthe, à Cracovie, chez les Polonais, c'est quelque chose. Ils sont liés à ça. C'est leur patrimoine. Quand le pape est arrivé à Lyon, il a dit au cardinal, c'est le cardinal qui me l'a répété, il a dit tout de suite, vous avez 1000 ans de christianisme de plus que nous. Ça fait comprendre beaucoup de choses. Vous avez 1000 ans de christianisme de plus que nous. Et bien, quand le pape est monté à Paris, qui il a vu les évêques à huis clos, tous les évêques de France. J'ai pas écouté, je pouvais pas écouter ce qu'il a dit, hein, mais ça a paru dans la documentation catholique. Je me suis précipité dessus. Alors toujours, c'est à la fin d'un discours comme ça qu'on découvre l'intention du pape. Parce qu'au début, c'est gentil. Forcément, quoi. Le pape est poli. Et à la fin, le pape dit ceci. L'Église d'aujourd'hui vit une tentation comme elle ne l'a encore jamais vécue. Ça, c'est intéressant, parce qu'on dit tout le temps, mais l'Église a toujours lutté, toujours lutté. Donc, c'est... Ah non, le Saint-Père note qu'il y a quelque chose de tout à fait nouveau. Et comme il est philosophe, le Saint-Père dit une méta-tentation. Oui, comment on dit une métaphysique? Qu'est-ce que ça veut dire dans son langage? C'est la ur-tentation, la tentation fondamentale, radicale. J'allais presque dire la tentation à l'état pur. Vous voyez, la méta-tentation. Et le Saint-Père explique qu'est-ce que c'est que cette méta-tentation. Cette méta-tentation que l'Église subit, c'est que l'homme, arrivant à l'âge adulte, ne veut plus de sauveur et veut être lui-même le sauveur de l'homme. C'est la laïcité. C'est l'âme de la laïcité. Si la laïcité a une âme, elle a une âme démoniaque. La laïcité, vous voyez, pas la laïcité distinction du laïc, non, la laïcité dans le sens où on la vit en France, parce que c'est très caractéristique de la France. La laïcité française est une laïcité anti-religieuse. On ne veut plus parler de Dieu. Et on ne doit plus parler de Dieu. Et tout s'explique sans Dieu. Donc on ne parle plus de l'âme. C'est la conséquence immédiate de la laïcité, c'est qu'il n'y a plus d'âme spirituelle. Il n'y a plus de métaphysique, de philosophie, de sagesse. Non, ça n'existe plus. C'est le positivisme absolu. On suit la science, et c'est la science qui éclaire l'homme. L'éthique est en dépendance du progrès de la science biologique. C'est proclamé, ça, et on va même l'instituer comme loi. La laïcité française, c'est la laïcité la plus perverse. Parce que la France est la fille aînée de l'Église. Alors le Saint-Père venant proclamer à la France, « France, souviens-toi de ton baptême, baptême de Clovis, souviens-toi de ton baptême, souviens-toi que tu es fille aînée de l'Église. Quelle est la tentation actuelle? C'est que les hommes, étant arrivés à l'âge adulte par la science et la technique, disent « Il n'y a plus de place pour un sauveur dans la culture d'aujourd'hui. » Oui, ça vous fait penser au point de départ. Il n'y a plus de place à l'hôtellerie quand Marie et Joseph sont arrivés à Bethléem. Et les descendants de David, qui pourtant étaient des gens bien, les descendants de David, ont comme une grossièreté formidable devant la Vierge Marie qui attendait un enfant. Devant Joseph, qui devait montrer et devait dire l'état dans lequel se trouvait Marie. Ils ont commis cette grossièreté. Il faut appeler les choses par leur nom. Il n'y a plus de place pour vous. C'est dit très discrètement, mais c'est dit quand même dit. Hein. Il n'y a plus de place pour vous. Allez. Ils sont partis se réfugier dans un abri où les animaux s'abritent. Il n'y a plus de place pour Marie, pour Jésus, chez les descendants de David. à Bethléem. Aujourd'hui, le Saint-Père déclare la grande tentation que l'Église doit, devant laquelle se trouve l'Église, c'est que les hommes savants, intelligents, ceux qui ont l'autorité et le pouvoir, déclarent qu'il n'y a plus de place pour un sauveur. Les hommes se suffisent à eux-mêmes. Je crois que c'est très éclairant. Si la tentation démoniaque, cela, si la tentation nous révèle la fragilité de l'homme, on voit donc bien que, aujourd'hui, le démon veut que les hommes se replient sur eux-mêmes. Le chiffre de la bête, vous savez, c'est dit dans l'Apocalypse, 6, 6, 6, 3 fois 6. 6, c'est l'homme qui se replie sur lui-même d'une façon absolue. S'opposant à la Trinité, se replie sur lui-même et se coupe de son lien avec Dieu. L'homme qui reconnaît la dépendance à l'égard de Dieu, c'est le chiffre 7. Et philosophiquement, on peut le montrer. L'homme a 7 dimensions, la personne humaine a 7 dimensions. Et toute philosophie saine qui cherche la vérité dans un réalisme aboutit à montrer que la personne humaine a 7 dimensions. Il y a dans l'homme 7 attentes de Dieu. C'est beau du reste. 7 dimensions. Alors vous coupez la dimension religieuse. Vous avez 6. Et vous dites que l'homme veut se sauver par lui-même. 6, 6, 6. L'homme se regarde, il se replie sur lui. C'est parfait. L'homme ne produit plus que l'homme, et ne veut plus produire que de l'homme, et ne veut plus regarder que l'homme. Je crois que la grande tactique du démon, c'est de faire que l'homme se coupe de Dieu, et que l'homme entre dans cet orgueil collectif de la tour de Babel. Je vais vous en dire un mot. Et c'est-à-dire que l'homme veut dominer sur le monde. Et dominant sur le monde, prétend que c'est lui qui gouverne le monde. À la place de Dieu, c'est évident, à la place du Christ. Et que dans cet orgueil, l'homme arrive de lui-même à rendre le monde inhabitable, à faire sauter notre petite planète. Il peut le faire maintenant. L'homme a le pouvoir de rendre le monde inhabitable. Le Saint-Père, dans sa première encyclique, le disait. Faites attention, vous arrivez à un tel pouvoir que si tout ce qu'il y a actuellement d'armes défensives, d'armes de destruction éclatées, le monde serait inhabitable. Vous voyez, le suicide collectif de l'humanité. Je ne crois pas du tout que ça se terminera comme ça. Mais c'est l'intention du démon. Et quand on sera tout proche de cela, le Christ reviendra dans sa gloire. Mais tout va dans ce sens-là, quand vous regardez attentivement. Tout va dans ce sens-là. Il faut quand même être un peu lucide. Et c'est la tactique du démon. prouver à Dieu, face à Dieu, que Dieu s'est trompé en créant l'homme et la femme. Et en créant cet univers pour Dieu. Et l'homme va faire sauter la planète. L'homme va rendre l'atmosphère impossible. Vous voyez la pollution généralisée. Vous savez bien, quand il y a eu une réunion à Helsinki, il y a quelques années, sur la question de la pollution, c'était une réunion internationale. Et j'avais un ami qui y était. Il m'a raconté comment ça s'était passé. C'était intéressant. Évidemment, aucun journal n'a raconté ça. La pollution qui augmente, est-ce qu'on ne peut pas quand même arrêter ça? Puisque, selon les statistiques, ça va très vite. La Méditerranée, il n'y aura bientôt plus de poissons vivables là-dedans. C'est pas drôle, hein? Et ainsi de suite. Alors, c'était du temps de Mao. Il y avait 7 représentants de Mao en uniforme. Mais c'est toujours un 7. Alors, ils ont demandé la parole tout de suite au début. C'est très bien la réunion dans laquelle on est, mais il faudrait s'entendre pour savoir si la science est au service de l'homme ou si l'homme est au service de la science. Hein? Personne n'a répondu, même le représentant du Vatican. Je trouve ça extraordinaire. Personne n'a osé répondre. Est-ce que la science est pour l'homme ou l'homme pour la science? Alors, comme personne n'a répondu, ils se sont assis. Ils ont gardé après un silence absolu. Puis, au milieu de la réflexion, ils ont redemandé la parole. Nous redisons la même chose. C'est pas la peine d'essayer de raccommoder un petit bobo si on ne va pas à la source du mal. Est-ce que la science est pour l'homme ou l'homme pour la science? Personne n'a répondu. Et c'est très... Qu'on mette pas ça dans les journaux, hein. c'est trop cru. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors ça venait de Mao, donc ça venait pas du Saint-Esprit. Alors d'où ça venait? Celui qui n'est pas avec moi et contre moi. Il y a une tactique, hein, du démon qui va très très loin. Et il s'y prend, parce que pour lui, il y a le temps. Mais maintenant, il est très pressé, parce que ses jours sont comptés. Alors il va très très vite. Et puis ça s'éclate, ça se dit ouvertement. Alors, ça c'est la tentation, vous voyez. Le péché provient de la tentation. Toujours. C'est le point de départ. Ève n'aurait pas péché si elle n'avait pas eu la tentation. Alors c'est pour ça que c'est si important de regarder ce point de vue de la tentation. Même si, vous voyez, voir le péché, voir le péché gras, péché gras, c'est pas ça qui est important pour nous. C'est de voir que nous vivons dans un monde de lutte, dans lequel les tentations sont là et sont toujours plus fortes. Et que nous vivons actuellement cette méta-tentation. Alors demandez-vous si vous êtes complice de cette méta-tentation. Si vous ne vous laissez pas un peu contaminer, polluer par cette méta-tentation. Parce qu'il n'y a pas que la pollution de l'air, de la mer. il y a la pollution spirituelle. Alors celle-là, évidemment, ils n'ont pas traité. Et la pollution spirituelle, c'est justement le point de vue des orientations philosophiques d'aujourd'hui, ou anti-philosophiques, anti-sagesse. On ne veut plus que le point de vue de la science. On ne respecte plus que la science. Des petits signes qui sont extrêmement frappants, tu vois, de voir ça quand on parle de la bioéthique et de voir qui Mitterrand a mis comme président de la bioéthique en France. Quelqu'un qui affirme qu'il n'y a pas d'âme spirituelle, que l'homme est uniquement une organisation de biologique, chimique. Et donc, l'éthique, c'est tout simplement un dressage. C'est ce que déjà le maître Monod disait dans les rencontres à Genève. Il n'y a aucune différence entre éduquer un enfant et dresser un chat. Donc, l'éthique qui se traduit dans l'éducation revient tout simplement à un dressage d'une technique psychologique. On sait que il faut faire attention pour mettre des liens psychologiques et arriver à faire que comme ça, un éléphant joue du piano. C'est la technique. Deuxième question. Elle l'écrasera la tête. Est-ce que cela veut dire elle écrasera ton intelligence orgueilleuse par la capacité d'amour spéciale que je lui donne? Tout à fait, d'accord. Voyez, Dieu, c'est ça qui est extraordinaire dans la réponse de Dieu au péché. Alors ça, c'est tout le gouvernement de Dieu. Dieu crée un être libre et Dieu respecte cet être libre. Et si Dieu respecte cet être libre, ça fait partie des permissions de Dieu. Si Dieu permet, c'est toujours pour une plus grande miséricorde. Si Dieu permet, c'est toujours pour une plus grande miséricorde. Il ne faut jamais oublier ça. Et donc, si Dieu permet la chute, c'est pour un relèvement plus grand. Alors, Dieu va se servir de la femme, et la femme ici, c'est Marie, pour écraser l'orgueil de Satan. C'est la femme de Marie, je veux dire, la femme, c'est Marie, et c'est tous les amis de Marie. Tous les enfants de la Vierge Marie, tous ceux qui vivent dans le lien avec elle, par la pauvreté divine qui provient de l'amour. Donc c'est l'amour qui écrase l'orgueil. Et les armes divines ne sont pas les armes du démon. Tu l'atteindras au talon. Qu'est-ce que cela veut dire? Et pourquoi Dieu ne donne-t-il pas à la femme? Oui. Un surcroît comme sur le démon. Il semble que Marie, la femme, écrase complètement par son amour et son humilité le démon. L'orgueil du démon. Et qu'elle n'est pas atteinte au talon, en aucune façon. Alors que faut-il comprendre? Oui, le talon, c'est la pauvreté. Puisque le talon, c'est ce qui nous permet de marcher. Supprimez le talon, vous allez voir comment vous marcherez. C'est la stabilité, c'est ce qui permet ça. Alors l'atteinte au talon. Vous savez, la béatitude des pauvres. comme c'est la taille du Père, et comme c'est la première béatitude, c'est que, de fait, pour écraser l'orgueil du démon, il faut cette pauvreté radicale. On est atteint au talon. Dieu, par la grâce chrétienne, ne réhabilite pas l'homme dans une perfection totale. Alors là, c'est le grand problème. On accepte le Messie si c'est un Messie qui est prince, roi temporel. Israël, le peuple juif, aurait accepté Jésus si Jésus était venu les libérer du joug des Romains. Si Jésus était apparu comme dans un messianisme temporel, ils auraient tous couru après Jésus. La preuve, c'est quand Jésus a fait le miracle de la multiplication des pains, on veut le proclamer roi. Avoir un roi qui vous donne du pain gratuitement sans qu'on ait besoin de travailler. Alors on est tous chrétiens, si, être chrétien était l'assurance qu'on ait besoin de travailler et qu'on ait du pain en surabondance, et du bon pain, du pain frais, du pain merveilleux et des petits poissons frais. On serait tous chrétiens, mais c'est évident. Mais Jésus vient nous sauver divinement par la porte étroite de la pauvreté. C'est la première des béatitudes. Et cette porte étroite, la pauvreté, c'est pas commode de la vivre dans une société de consommation où tout va vers la richesse. Mais c'est pour ça que c'est la blessure au talon. On est touché dans son corps par le point de vue de la pauvreté. Mais, en même temps, c'est grâce à la pauvreté que Dieu peut aller si loin dans le don de son amour. Et Marie est la plus fragile et la plus pauvre de toutes les créatures. Si on proclame Marie reine, Marie n'a pas régné du tout sur la terre. Si on proclame Jésus roi, Jésus n'a pas du tout régné sur la terre. Il a été un pauvre. Il est mort comme un pauvre. Il est mort sur la croix. C'est ça la pauvreté. Hein. C'est la sagesse de la croix. La sagesse de la croix, c'est assumer toutes les conséquences du péché que représente justement la souffrance. Je continue cette description, parce que c'est une description étonnante de voir comment le démon est puni parce qu'il a tenté Ève, vu la gravité de cette tentation. Vu la gravité de la faute d'Ève et d'Adam, vu les conséquences de cette faute. Parce que c'est du fait même que Dieu punit le démon. Cela nous montre la gravité de cette tentation. À la femme, il dit, je multiplierai ta peine et tes grossesses. C'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Vers ton mari se portera ton désir, et lui dominera sur toi. Voilà la conséquence du péché. Les scènes de ménage. La conséquence du péché, les divorces. La conséquence du péché est la mésentente, alors que l'homme et la femme sont faits pour s'entendre. Dans une complémentarité merveilleuse. Os de mes os, chair de ma chair. C'est le premier Magnificat, ça. C'est le Magnificat d'Adam. Il est dans la merveille. Os de mes os, chair de ma chair. Il n'avait jamais rêvé que tu lui feras un cadeau aussi beau. C'est une merveille. Et l'homme devrait tout le temps chanter ça. Os de mes os, chair de ma chair. Un véritable époux doit dire ça de son épouse. Os de mes os, chair de ma chair. C'est son Magnificat. Alors, conséquence du péché, conséquence de l'orgueil. Alors, cela touche la fécondité. La femme est source de fécondité. C'est dans la peine que tu enfanteras. La fécondité qui est le fruit de l'amour va être marquée d'une peine, d'une souffrance. Et ce qui veut dire, c'est qu'au bout d'un certain temps, la femme n'aimera plus du tout être mère. C'est le dégoût le plus terrible. Rejeter la fécondité. Avoir peur de la fécondité, alors que la fécondité devrait être source de joie. Dieu est là, j'enfanterai un fils de par Yahvé. Voyez, là aussi c'est intéressant pour comprendre la psychologie de la femme blessée par les conséquences du péché. C'est pour ça que je dis que la psychologie, pour être efficace et pour être vraie, doit être chrétienne. Comment voulez-vous qu'un psychanalyste freudien puisse comprendre les conséquences du péché? Et il nous est montré ici que les conséquences du péché marquent très profondément la femme. Puisqu'il est dit, cette chose... Vers ton mari se portera ton désir. Ce qui prouve que le mari n'aura pas suffisamment d'amour pour satisfaire le désir de son épouse. Plus suffisamment de tendresse pour satisfaire le désir de son épouse. Et lui dominera sur toi à la place de satisfaire l'amour de son épouse. Il profitera de la fragilité de quelqu'un qui est en état de désir pour te dominer. À l'homme, il dit, voyez ce qui est très intéressant ici, et ça, il faut bien le dire, les théologiens n'ont pas fait assez attention à ce texte. C'est de voir que les conséquences du péché ne sont pas les mêmes sur la femme et sur l'homme. On est resté sur une théologie spéculative, ce qui fait qu'on ne comprend plus. La théologie spéculative est très bien, mais elle est incomplète. Une vraie théologie doit aboutir à une théologie mystique. Une théologie mystique, c'est une théologie d'amour. Et dans une théologie mystique, on comprend tout de suite toutes les conséquences du péché. À l'homme, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Hein? Ce qui prouve que l'homme n'avait pas assez écouté la voix de sa femme avant. Hein? Et tout d'un coup, il l'a écouté trop. Pour réparer, parce qu'il n'était pas très à l'aise, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Maudit soit le sol à cause de toi. Maudit, hein. C'est extraordinaire ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Maudit. regardez un petit peu ce qui se passe pour tous les agriculteurs français aujourd'hui. On aimerait leur parler en leur disant ça. Maudit soit le sol à cause de toi. Déjà la salette, Marie montrait hein, les conséquences du péché par rapport au sol. C'est très curieux, hein. C'est pas commode à comprendre, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est quand même quelque chose de montrer que les conséquences du péché touchent notre conception du travail. La conception du travail idéologique, marxiste, tout est sur la praxis. Il faut bien voir. Et c'est pour ça que l'idéologie marxiste avait une telle emprise. Parce qu'elle parlait aux ouvriers. Et elle a défiguré, complètement défiguré, le point de vue du travail. L'idéologie de la praxis, au point de vue marxiste, n'est pas la philosophie du travail. C'est un travail sans l'homme. C'est l'encyclique du Saint-Père sur le travail qui montre que l'idéologie marxiste oublie l'homme et exalte l'ouvrier. On fait la séparation entre les deux. Maudit soit le sol à cause de toi. Dans la peine, tu t'en nourriras. Tous les jours de ta vie, ce sont des épines et des chardons qu'il fera germer pour toi et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ton retour au sol, car de lui tu as été pris, car poussière tu es et à la poussière tu retourneras. Voyez la modification de la noblesse de l'homme avec le poids du corps. C'est l'homme, normalement, trouve sa joie dans le travail et dans un travail bien fait et dans un fruit du travail. Il trouve là son épanouissement et sa joie. Le travail deviendra le lieu de la lutte. Il produira des épines et des chardons. Parce que l'homme ne respectera plus la terre. On est en train d'exploiter et non plus cultiver. Quand on cultive, on coopère et on respecte la finalité du sol. Quand on exploite, on agit de l'extérieur et on ne cherche plus que le rendement et l'efficacité. Et c'est par là qu'il y aura une malédiction. Maudit soit le sol à cause de toi. Alors vous voyez, ce qui est important ici à noter, c'est que ces peines et ces conséquences du péché sont différentes pour l'homme et la femme et Satan. Et on voit bien, et c'est dit, que les conséquences du péché d'orgueil met un équilibre tout à fait nouveau, ou plus exactement, introduit un désordre. Une rivalité entre l'homme et la terre, entre l'homme et son épouse, entre l'homme et la femme, par rapport à Satan et par rapport à Dieu. La conséquence du péché, c'est le désordre. La conséquence de l'orgueil, c'est le désordre. Et c'est ça qui montre la gravité de l'orgueil. l'homme responsable de lui-même, de son corps et de son intelligence et de l'autorité qu'il a sur l'univers, transformer l'univers. Jésus a donné ça comme précepte au point de départ. Multipliez-vous et transformez l'univers. Voilà que la multiplication des hommes sur la terre pose un problème, un désordre. Et la relation de l'homme avec l'univers va poser un problème. Parce que le sol est abîmé par les conséquences du péché. Alors on voit qu'il y a là un désordre qui s'établit. Et on lutte contre ce désordre, non pas divinement, mais humainement. On impose à un pays comme la Chine de n'avoir qu'un seul enfant légitime, légitime politiquement. Un seul enfant. Mais c'est bien ce qu'on voit, les conséquences du péché touchent la fécondité.